Radio Jenny, la plus rebelle des radios. Caesar, hear me, the merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about someone, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. That boy, your caller, I do it as you like. You much to do about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h03.
C'est ça. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2016.
C'est l'heure du Canu Info. On est un peu en speed.
Non, on est super motivé, tu rigoles.
Et du coup, ce soir, on va parler de quoi ? Eh ben, Vinci s'est fait pirater.
Et en exclusivité, l'annonce du gouvernement Fillon.
L'exclusivité Radio Canu, hein ?
Ouais, tu m'étonnes.
Ensuite, on reviendra sur une campagne de prévention contre le sida.
Des expulsions vers le Soudan.
Ensuite, on va parler de culture intensive d'avocats.
D'attaque d'un rassemblement pro-Erdogan.
De Parlement européen qui veut stopper l'entente avec Erdogan.
D'un projet d'oléoduc sur les terres Sioux.
Et on aura un petit conseil de lecture pour finir ce Canu Info avant de passer à...
Le loup en slip, ça s'appelle.
Le loup en slip. Alors ça y est, c'est vraiment, vraiment, vraiment la classe. Des opposants à l'aéroport ont réussi à faire chuter l'action de Vinci en bourse de 18%. Et c'est vraiment, vraiment pas une blague. En gros, ils ont balancé un mail à toutes les rédactions de journaux provenant de l'adresse @vinci.group qui annonce le licenciement du directeur financier de Vinci, qui annonce également que le groupe allait procéder à des révisions de ses comptes sur l'année 2015 et sur le début de l'année 2016 et que des transferts irréguliers avaient été faits.
Ça, c'est ce qu'on appelle un hoax, si j'ai bien compris. H-O-A-X. C'est un terme qu'on voit en ce moment, c'est un hoax.
Quoi. C'est pour dire que c'est un faux truc, quoi.
Non, mais c'est hallucinant.
Mais sauf que par contre, ils ont utilisé à l'inverse des hoax qui balancent juste des fausses rumeurs. Là, c'est plus que ça, parce qu'ils ont pris l'identité de Vinci. Alors, ce que j'ai pas réussi à capter en lisant quelques articles, c'est si l'adresse @vinci.group est réellement une adresse de Vinci, ou s'ils ont utilisé une adresse qui ressemblait à très très parfait, enfin à peu de choses près, genre à un point près, à l'adresse qu'utilise d'habitude Vinci
pour communiquer.
Et donc ça, j'ai pas réussi à savoir. Donc voilà.
Patatras.
Mais quand même, l'agence Bloomberg, qui est une agence de presse spécialiste dans l'information sur les marchés financiers, s'est fait avoir. Donc s'il y en avait une qu'il fallait qu'il se fasse avoir, c'était bien celle-là. Oui, parce que je pense que les marchés financiers ne traitent pas les mêmes infos si ça vient de Bloomberg, si ça vient de 20 minutes ou du Progrès. Ouais.
Du coup, ils sont arrivés à
les berner, quoi.
C'est vrai,
quand on voit leurs mails, c'est assez bien foutu. J'imagine, sauf si je me plante, mais j'imagine que les gens qui ont écrit ça ont dû potasser un peu le langage et tout ça, parce que c'est vraiment des... Enfin, ouais, quand on lit le truc, bon, moi j'y connais rien au marché financier et à leur phrase type ou quoi, mais tu te dis que c'est crédible.
Donc moins 18%.
Moins 18%, c'est quand même pas mal. Bon, c'est remonté derrière, je crois que ça a récupéré assez vite quand Vinci on fait des démentis, mais quand même ça a dû faire des dégâts, en tout cas ça a dû bien les mettre en panique. Donc voilà, et une fois que Vinci a démenti publiquement ce faux mail, et ben du coup les activistes ont revendiqué pourquoi ça avait été fait. Donc là je vais vous lire des citations un peu qu'il y avait dans ce communiqué. Vinci vient de faire une dégringolade financière vertigineuse, ceci est un nouvel acte de sabotage à l'encontre de cette entreprise. La forêt de Notre-Dame-des-Landes a elle-même senti le béton reculer et ses occupants ont fêté ce nouveau coup porté directement dans la bourse de ce monstre de béton. Le communiqué évoque également le coup que porterait Vinci aux ouvriers népalais ou indiens qui meurent chaque jour sur les chantiers au Qatar, et des meurtres de journalistes en Russie qui pour s'être intéressés de trop près à la corruption autour de chantiers d'autoroutes. Même si son empire, je cite toujours, économique semble solide, il y aura toujours des failles dans le béton pour l'éclater. Si l'argent est leur motivation, ils continueront d'en perdre. Si leur but est de garder une bonne image, ils perdront la face, car la vie est plus forte que l'oppression, les pelleteuses et l'exploitation. Franchement, chapeau.
Chapeau.
Et en exclusivité ce soir sur Radio Canu, tu vas nous parler de l'annonce du gouvernement Fillon.
Oui, c'est en partenariat avec le mensuel Regard que nous sommes à disposition pour vous énoncer ce gouvernement qui vient tout juste de sortir. Exclusivité Radio Canu, on commence.
Alors, première ministre.
Eh bien, ce sera Christine Lagarde qui, en 2013, avait dit qu'elle aime d'amour quelque part François Fillon, donc ce sera sa première ministre.
Et nommé au ministère de l'Intérieur.
Alors Renaud qui a dit il y a quelques jours ou mois qu'en fait, il aimait bien Fillon.
Et nommé au ministre des Affaires étrangères et des colonies.
Thierry Mariani.
Est nommé ministre de la guerre des civilisations.
Gérard Longuet, on rappelle, hein, c'est donc...
Grand expert.
Grand expert de la guerre des civilisations, donc toujours dans cette exclusivité du gouvernement de Fillon qui vient d'être nommé.
Alors, retour, ministre de l'économie, de la libération de l'économie.
Un grand spécialiste, à savoir Alain Madelin, que l'on aime particulièrement sur cette antenne.
On ne change pas une équipe qui gagne, hein, ministre du Travail.
Alors ça, c'est évidemment pas une surprise. La ministre du Travail du gouvernement Fillon sera donc Myriam El Khomri.
Quel titre, ministre de l'Agriculture et de la Pêche revient forcément à
Jean-Frédéric Poisson.
Au ministère de la Justice et contrôleur général de la privation des libertés.
Bien sûr, c'est Nicolas Sarkozy qui aura été plébiscité pour ce grand ministère.
Bon, pour l'instant, des spécialistes sont nommés dans ces ministères. Alors, au ministre délégué aux affaires européennes du charbon et de l'acier.
Eh bien, il s'agit de Balamou, à savoir Édouard Balladur.
Au ministère de la Famille pour tous.
Alors là, c'est facile, c'est Ludivine de la Rochère, que je ne connais pas plus que ça, mais c'est la numéro 1 de la Manif pour tous, ou l'ex-numéro 1, la super...
Elle est que ça.
Donc on s'en réjouit, bien sûr.
Tout à fait, et talonné de près, qui jalousait ce poste de ministère de la Famille pour tous, a été nommé secrétaire d'État au droit, à la vie et au culte.
Alors Christine Boutin, donc, qui entre dans ce gouvernement Fillon, qui donc, est déclamé ici en exclusivité sur l'antenne de Radio Canu.
Et c'est donc la surprise de ce gouvernement, Christine Moutin, qui n'a eu qu'un rôle de secrétaire d'État et pas du tout le ministère qu'elle jouait de la Famille pour tous. Au ministère de l'Éducation et du Récit National, oh quelle bonne nouvelle.
Voilà, Alain Finkielkraut.
Au ministère de la Culture et des Racines Chrétiennes.
Alors, François Fillon a appelé un grand expert, il s'agit donc de Philippe de Villiers.
Un poste aussi jalousé par Christine Moutin, mais on ne sait pas pourquoi elle a été mise écartée comme ça.
Pourquoi de Villiers?
Racine chrétienne, de Villiers, il est quand même assez...
pour quel ministère?
Pour le ministère de la Culture et des Racines Chrétiennes.
Voilà, ah oui, c'est bien. Okay.
Secrétaire d'État à l'artisanat et à la boulangerie.
Bien sûr, c'est Jean-François Copé pour son soutien inconditionnel au pain au chocolat.
C'est ça, et voilà, on sent que Fillon fait un peu de l'œuvre sociale avec le pourcentage qu'a fait Copé aux dernières élections. Secrétaire d'État aux anciens combattants.
Eh bien, il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing. À noter également que le ministère des Affaires sociales est fermé pour absence d'objet, bien sûr. Le ministère de la Santé est fermé également du fait de la privatisation des hôpitaux. Le ministère de l'écologie, donc de ce gouvernement Fillon, est également fermé parce qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et ça on le sait. Le ministère de la fonction publique est également fermé puisque en fait on a tellement réduit les effectifs qu'il n'y a plus de fonction publique. Voilà. Alors juste à petite précision, il y a quand même dans le cabinet du président quelqu'un de très important. Il s'agit du secrétaire général de l'Élysée en la personne de
Pierre Gattaz.
Merci. Voilà. « Beaucoup plus sérieux.
Oui, beaucoup plus sérieux et un tout petit peu moins drôle. Hein. Alors depuis quelques jours, une campagne de prévention contre le sida, une campagne de pub exclusivement destinée aux mecs qui couchent avec des mecs, autrement appelé HSH, en prévention contre le sida, c'est un jargon que je ne connaissais pas avant de faire cet article. Donc voilà, donc vous avez sûrement vu, moi j'en ai croisé, hein, dans affiché un peu partout en ville, enfin un peu partout, donc sur plusieurs panneaux publicitaires en tout cas. Alors pourquoi spécifiquement ce public? Michael Zenouda, président d'ACTUP, l'explique dans un article de BuzzFeed, et là je cite, il est capital d'avoir une campagne ciblant spécifiquement les gays, c'est le premier groupe touché par les contaminations. Sur 10 personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année, 4 à 5 sont des hommes qui couchent avec des partenaires du même sexe. C'est aussi pour toucher un maximum de monde que le choix a été fait de faire cette campagne partout et pas uniquement dans les lieux ciblés comme ça se fait régulièrement, parce que tous les hommes qui couchent avec des hommes ne vont pas forcément fréquenter des bar gays ou vont pas forcément dans des lieux qui ont été ciblés pour faire de la prévention. La campagne en question, c'est 3 ou 4 affiches, je sais plus trop, avec sur chacune d'elles 2 mecs debout et habillés, et en gros, ils sont soit bras dessus, bras dessous, soit il y en a un qui tient le visage de l'autre, un peu comme s'ils allaient s'embrasser, ou alors l'un a ses lèvres dans le creux du cou de son partenaire. Et sur ces photos, il y a écrit avec un amant, avec un ami, avec un inconnu, ou alors coup de foudre, coup d'essai, coup d'un soir.
Alors on peut quand même préciser que c'était mon cas. On peut regarder ces affiches en ne voyant finalement que ces titres qui sont assez accrocheurs. Et moi, je n'avais pas remarqué que c'était deux garçons en photo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un impact fort sur l'idée de, voilà, ça peut être un coup de foot, ça peut être un coup comme ça. On sent bien qu'il y a un lien avec la sexualité, avec le fait de se protéger, mais ce n'est pas, pas archi net d'être obligé de voir que c'est deux hommes, quoi.
Ouais, tout à fait. Et aussi, pour la vie, pour un week-end, pour une fois, et sous chacune d'elles, du coup, sous chacune de ces situations, il y a les situations variées, le mode de protection aussi. Bref. Vous l'aurez compris, rien d'outrancier. Alors pourquoi j'ai précisé tout ça? Pourquoi j'ai précisé qu'ils étaient debout et habillés? Eh bien parce que ça n'a pas empêché une poignée de connards, maires aussi à temps perdu d'une dizaine de villes de France, de faire retirer à JC Deco ses affiches. JC Deco qui a obtempéré sans sourciller. Mais qui sont-ils? Est-ce une poignée de militants qui luttent aux côtés du sida pour que le virus puisse continuer tranquillement d'infecter tous les corps de la planète? Alors si c'est le cas, sont-ils alliés aux côtés des combattants pour l'expansion de l'hépatite ou alors des soldats de la syphilis? On ne sait bien, on n'en sait rien. Mais il semblerait que non, il n'en est rien. Ce sont juste des maires de droite qui ont répondu favorablement à l'appel de l'association Famille Catholique, autrement dit l'AFC, pour qui ces affiches, attention, je cite, je n'ai rien tronqué, s'impose sur le chemin de l'école sans se soucier de l'appréciation par les parents de la sensibilité des enfants, et on se voit contraint brusquement à aborder en famille le sujet de pratiques homosexuelles masculines.
Mais c'est toujours le truc des enfants, quoi. Les enfants, ils ont tellement bon dieu pour tous les cathos et réacs, quoi.
C'est ça. Mais surtout, effectivement, comme tu le dis, c'est quand même 100 fois moins explicite que n'importe quelle pub de lingerie, n'importe quelle pub de parfum, n'importe quelle pub de crème pour le visage, enfin, à peu près n'importe quelle pub qui concerne une meuf sur les vêtements, la mode ou quoi que ce soit d'autre. Cette association donc progressiste, hein, vous l'aurez remarqué, a lancé un appel à tous les maires de France pour faire retirer ses affiches. Eh bien bon, il y a quand même une dizaine de maires qui ont répondu à cet appel, et pas que des maires Front National, hein, quand même, faut le préciser, un paquet de maires UMP aussi. Bon, alors les réactions sur le net vont de « je dis quoi à ma fille de 8 ans » à « pourquoi imposer ça dans des lieux ciblés, une campagne diffusant une compétition trash du sexe homme-homme » pouille s'étonner des protestations. Alors bon, perso quand même, vraiment ce que j'ai trouvé le plus craignos au-delà des quelques couillons sur Twitter, c'est que le gouvernement s'entend venir le débat des réacs et bien était à deux doigts de s'auto-censurer, chose qu'il aurait mieux fait de faire, hein, au moment de pondre la loi travail, les nouvelles lois sur l'immigration et j'en passe, mais bon, ça, il s'en est abstenu. La ministre de la Santé a en effet demandé à Santé Publique France, chargée de faire la campagne d'affichage, de rajouter des photos avec des couples hétéros, en se disant, ah, comme ça, on pourrait prendre les devants, en disant, ah, mais si, mais vous inquiétez pas, c'est pas que pour les homos, vos enfants de votre gamine de 8 ans, vous pourrez lui montrer un couple hétérosexuel tout à fait classique, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, devant la levée de boucliers des assauts de lutte contre le VIH, la ministre a finalement reculé. Hein, on les remercie grandement de faire un peu une veille sur la ministre. Rien que de penser que par peur d'une poignée de connards sur Twitter, je le disais tout à l'heure, le gouvernement puisse penser à édulcorer un message de prévention pour lutter contre des maladies qui contaminent un paquet de gens et donc la rendre moins efficace, c'est quand même juste à vomir.
Et une initiative d'un journal qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, plutôt du bon côté, c'est que effectivement la toile, comme on dit, s'est embrasée. Alors c'est comme ça qu'on dit. Hein. Visiblement, il y a eu énormément de réactions ulcérées par cette campagne, et puis des réactions complètement homophobes. Eh bien, il y a un journal qui s'appelle L'Union. C'est visiblement un journal du côté de Chalon, qui a carrément sur une page entière titré 2016 l'homosexualité dérange toujours et qui a sorti ni plus ni moins que des copier-coller de tweets ou de remarques en tout cas probablement de tweets avec les noms et les prénoms des gens inscrits sur le tweet et avec les tweets absolument infâmes les uns après les autres. Donc ce journal précise, la rédaction a décidé de s'engager et d'exposer dans ses colonnes les lamentables commentaires qui ont pollué notre site. Alors c'est vrai qu'ils y vont pas avec le dos de la cuillère, mais ils montrent par exemple que on a par exemple Titouan Arlo qui dit « Elles sont très bien, ces pubs, elles montrent bien que le sida est un truc de PD. » Voilà, et d'autres choses vraiment abominables. Quelqu'un qui se plaint qu'il n'a pas le droit, il n'a pas le droit d'être islamophobe, pas le droit d'être, il a le droit d'être islamophobe, mais qu'il n'a pas le droit d'être homophobe. Il dit que voilà, on ne vit pas dans un monde de justice.
Mais c'est hallucinant.
Ouais.
Donc, je suis obligé d'en parler.
Voilà, donc une page entière, donc par une rédaction d'un journal, L'Union, du côté de Chalon, qui expose la bêtise de ces gens-là et surtout la façon dont la toile peut faire écho à des phrases, parfois bourrées de fautes d'orthographe, et pourquoi pas après tout, mais en tout cas qui sont toutes les plus abjectes les unes que les autres, et je vous propose de ne pas les lire parce qu'elles sont quand même assez fort de café. Vous pouvez trouver ça sur le web, c'est le journal L'Union qui s'engage.
Et alors ça vaut le coup de préciser, c'est un peu un nouveau mode d'action, une nouvelle mode, je sais pas comment l'appeler là.
C'est un peu borderline quand même.
Ouais, et du coup, l'idée, c'est un peu de troller les trolls, là. Du coup, c'est les personnes sur Internet qui disent les pires trucs bien cachés derrière leur écran. Et ça me fait penser qu'il y a une personne notamment qui a repris plein de tweets de gens qui s'exclamaient contre contre les homos, enfin tous les trucs un peu réactionnaires et tout, qui en a fait un espèce de bouquin sous une forme, alors je ne saurais plus exactement la dire, mais qui faisait que possiblement les gens pouvaient avoir envie d'acheter ce bouquin, et en fait du coup tous les bénéfices de ce bouquin seraient reversés au planning familial. Du coup, en gros, c'était un peu de dire voilà, avec les saloperies que vous avez dit, vous avez participé à financer un bouquin qui va filer de la thune au truc que vous auriez fié le plus. Du coup, je trouve ça assez rigolo.
Mais c'est ça, troller les trolls ?
Ouais, c'est ça.
Ok. Et alors, sinon, pour continuer sur le sida, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et ça a été mis en place en 1988 par l'Assemblée nationale, qui avait exprimé sa vive préoccupation devant la pandémie du sida. Il y avait l'OMS qui avait choisi cette date du 1er décembre 88. C'est plus de 35 millions de personnes qui sont séropositives dans le monde actuellement. Ce qui fait pas rien. Et donc chaque année, ce 1er décembre est l'occasion de mobilisation contre les sida et d'action d'information, de prévention, de sensibilisation. Donc c'est pas pour rien que cette campagne aussi est sortie cette fin
novembre. Un petit peu en même temps,
voilà.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et puis il a fallu attendre quand même des milliers de morts, etc. pour qu'il y ait de la sensibilisation qui soit faite. Et alors là, c'est le petit clin d'œil drôle, c'est qu'aujourd'hui même, la ville de Lyon a obtenu le label « Ville engagée contre le sida ». Et alors, c'est une asso qui s'appelle les élus locaux contre le sida, qui regroupe des élus de toutes tendances politiques. Donc, vous voyez une asso assez apolitique qui a reçu ce truc. Donc, nous sommes à Lyon.
Labellisée
ville engagée contre le sida. Voilà.
On recrute.
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéropose ta démission.
Ici tu trouveras des perles, des diamants, des paillettes dans tes lunettes, ce sera tout le temps. Nos beautés singulières, c'est comme un bol d'air face au schéma ordinaire. Ni modèle, ni fiche technique, ensemble on affine nos pratiques. Pas besoin d'aller sur Facebook ou Twitter, des amis tu t'en feras trois par heure. Tout le monde est gentil et de bonne humeur, pas de café, de beurre ou de liqueur, on nage tous dans un parfait bonheur.
Rejoins un crew, relève la tête, reste pas tout seul, viens à la fête. Rien n'a changé dans ton body, tu sais pas pourquoi, tu te sens sexy. Puis que t'es là, tu danses pas mieux, mais quand tu bouges, c'est merveilleux. Homophobie désintégrée, arbore ton plastron DPG.
On recrute.
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéropose ta démission.
Et on se dirige en Afrique, on aurait pu parler des élections qui se profilent du côté de la Somalie, mais on va aller légèrement plus au nord, et on va parler du Soudan.
Oui, mais le problème c'est qu'on reste en France, puisque ça parle d'expulsion, mais oui, tout à fait. Et en fait, je ne sais pas si je pense que vous en avez entendu parler, c'est de Ibrahim et de Baker. C'est deux personnes qui vont être expulsées et dont donc il y a une sorte de mobilisation qui a été mise en place pour eux depuis la semaine dernière et pour pas qu'ils quittent du coup le CRA de Vincennes, du moins qui partent du CRA mais qui se barrent pas au Soudan. Et donc il y a pas mal de médias qui ont relayé ces infos, mais globalement ce que je trouve intéressant c'est de parler de la situation de tout le monde, et du coup souvent ça aide de visibiliser des personnes, de les identifier, de les personnaliser, mais que là c'est la situation de plein de personnes, mais et pas seulement soudanaises, qui sont exilées, et que suite à l'expulsion là du bidonville de Calais, ben les autorités essayent de trouver leur solution, et la solution c'est aussi l'expulsion. Et donc pour l'instant ils sont au CRA de Vincennes, sauf que le fait qu'il y ait eu cette mobilisation, la préfecture du Pas-de-Calais et le ministre de l'Intérieur ont un peu lâché du lest lundi, et une partie des exilés qui risquaient l'expulsion pour le Soudan enfermé au centre de rétention ont été libérés, ce qui est voilà, on peut toujours se féliciter de petites et bonnes nouvelles. Et par contre, bien sûr, il y a une partie des autres personnes qui continuent à être en rétention, et le tribunal administratif a rejeté par contre mardi la requête de Baker, un des exilés, pour faire annuler le Soudan comme pays d'expulsion. Donc lui, il a refusé hier de monter dans l'avion qui devait le conduire au Soudan par Qatar Airways, et il n'a pas été forcé à l'embarquement, comme ça peut être le cas à plein d'autres moments. Il y a des gens, ils sont vraiment, ça a été dur pour eux parce que on les a forcés. Voilà, donc je pense qu'ils vont retenter le coup, mais lui, comme sa situation est beaucoup médiatisé, bah ça vaut le coup qu'ils tiennent le coup, et c'est chouette vraiment qu'ils tiennent le coup et qu'ils refusent de monter dans l'avion. Et ce répit en fait devrait lui permettre que les derniers recours en justice qui ont été déposés soient audiencés, puisque bah le gouvernement n'avait pas jugé utile de différer l'expulsion pour attendre les décisions des juges. Ils sont censés le faire, ils l'avaient pas fait par rapport à Baker.
La classe.
Voilà, et pourquoi en fait ? Parce qu'il est toujours possible, même si c'est difficile, hein, c'est jamais facile ce que Baker a fait ou ce que les gens qui le soutiennent font, mais c'est quand même possible d'enrayer la machine à expulser, de maintenir la pression et de ne pas se laisser faire. Et notamment, je vais vous proposer quelques petits trucs à faire qui ne demandent pas forcément beaucoup de temps, mais qui peuvent aider la vie de gens. Donc, par exemple, passer un coup de fil ou écrire au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est SEC, S-E-C comme sécurité.immigration. N'oubliez pas, les deux M, @intérieur.gouv.fr. Sinon, vous pouvez contacter la préfecture de la région concernée par l'expulsion. Voilà, préfecture du Rhône, du Pas-de-Calais, etc. Puisqu'elle est auteur de la décision d'expulsion et a la pouvoir, le pouvoir de l'annuler. Donc mettre, voilà, mettre la pression à la région. Et sinon, mettre la pression à la compagnie Qatar Airways, auprès de laquelle sont réservés les vols pour les expulsions. Cette compagnie donc, participe aux expulsions de personnes soudanaises et érythréennes, puisque Qatar Airways est une des compagnies pas si nombreuses qui desservent l'aéroport de Khartoum. Elle est aussi une des rares qui desservent celui d'Asmara et la capitale de l'Érythrée, et son rôle dans les expulsions devrait donc s'accroître avec les développements du processus de Khartoum entre l'Union européenne et les États d'Afrique orientale et les accords de réadmission avec le Soudan. Donc Qatar Airways, il y a une agence à Paris, c'est 19 rue de Ponthieu, dans le 8e arrondissement, et c'est 01 43 12 84 40.
Alors on va en apprendre plus sur la culture intensive d'avocats et ses conséquences.
Ouais, c'est culture intensive, c'est monoculture, donc c'est souvent synonyme de désastre, et malheureusement ça rime avec avocat, un produit que l'on aime visiblement tous et toutes de plus en plus. On va commencer par se déplacer du côté du Mexique, dans une région, voilà, une région qui concentre un petit peu là où se déroule l'exploitation de ces avocatiers. Donc ça s'appelle l'Uruapan, et faut être très clair, hein, les montagnes environnant cette région sont complètement envahies par des plantations d'avocats, et ça s'est pas fait comme ça en claquant des doigts, il a fallu évidemment raser des forêts de pins, en voulez-vous, en voilà. On parle ici de fièvre verte, hein, avec ces arbres qui sont remplacés par des avocatiers, parce que tout simplement il y a une demande internationale complètement dingue en avocats. Alors la déforestation, elle a engendré une augmentation de la température. Voilà, c'est ce qui préoccupe le plus du côté de cette partie du Mexique. Et puis il y a aussi évidemment tous les produits agrochimiques sur la santé, enfin l'impact de ces produits sur la santé qui inquiète évidemment. Quand ils sulfatent, là c'est une dame du coin, madame Carmona, qui dit quand ils sulfatent, donc bien entendu les avocatiers, nous cessons d'éternuer, sous-entendu faut vraiment se boucher les narines. Donc voilà, la moitié des avocatiers ont été plantés dans la forêt par le biais d'arrangements légaux qui permettaient de racheter ces terres, et donc c'est vraiment une catastrophe du côté du Mexique. Alors évidemment il y a une énorme manne financière qui est générée par l'avocat, et puis ça attire pas mal de monde. Alors évidemment du côté du Mexique il y a les cartels de la drogue qui s'y sont mis, et voilà, c'est un peu 36-15 magouilles autour de l'avocat. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un réel boom dans les années, ça a commencé dans les années 70, mais ça a vraiment explosé au début des années 2000. Il y a un autre article qui vient du Zeit, parce que là c'est un article du Courrier International, du Zeit, qui suggère que dans les années 80 il y a eu un boom autour du saumon fumé et de tout ça, et que juste derrière il y a eu donc les avocats dans les années 2000 qui ont vraiment remplacé un petit peu qui ont en tout cas été semés de choix plébiscités. Alors par exemple au Japon il y en a dans les sushis de plus en plus, et en quelques années, entre 2000 et 2000 et quelques, eh bien ils sont passés de 40 à millions de dollars d'avocats à 110 millions de dollars d'avocats, donc c'est du x2 en quelques années, donc une grosse pression. Alors, par exemple, si on interroge un monsieur, un instituteur dans une école primaire qui est donc située en plein milieu de ce QG de l'avocat au Mexique, il nous explique que l'expansion incontrôlée de cette culture, cette monoculture de l'avocat, eh bien, c'est accompagné depuis 15 ans d'une augmentation Tiens donc, des maladies respiratoires et digestives des élèves, bah oui, c'est que ça se fait pas non plus facilement. C'est des plantations d'avocatiers qui, en plus du côté du Mexique, s'étalent jusqu'à assez haut, hein, jusqu'à même 2600 mètres d'altitude. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, eh bien, si on pollue très haut, disons sur les plateaux ou sur les montagnes, si on pollue par rapport à ce qui est posé sur les avocatiers, eh bien, en fait, toute cette pollution va descendre au travers des nappes phréatiques et aussi au travers des ruisseaux et des rivières qui viennent de cette zone montagneuse cultivée. Donc voilà une inquiétude du côté du Mexique qui était assez récemment sortie dans les journaux. Et puis l'autre site, je vous l'ai dit, en a remis une couche. Cette fois-ci, c'est il y a une dizaine de jours, avec une grande enquête qui a été publiée dans le Courrier International, alors qu'il nous rappelle qu'effectivement, pourquoi l'avocat ? Bah, c'est parce qu'il y a le goût, mais il y a aussi ses vertus pour la santé. Il y a aussi que c'est une source de gras pour celles et ceux qui ne mangent pas, qui sont plutôt véganes. Donc c'est vraiment un produit assez miracle. Et donc eux, ils ne sont pas allés voir au Mexique, ils sont allés du côté de Johannesburg en Afrique du Sud. Et ils sont allés dans la ferme ZZ2, qui est... ZZ2, c'est... Bon, je ne savais pas, bien sûr, hein, mais c'est l'un des plus gros exportateurs d'avocats en Europe. Donc ça vient d'Afrique du Sud. Et alors là, c'est pareil. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Alors avant, ils faisaient des pommes de terre, puis en fait, après, ils ont fait des tomates parce que ça faisait plus de revenus, puis après, ils se sont mis à faire des quantités astronomiques d'avocats. Avocat, je précise, j'aurais dû le dire au début, c'est un fruit. C'est un joli arbre avec des avocats qui pendouillent, un peu comme des calebasses. Donc, c'est des fruits que l'on ramasse comme ça. Voilà. Du côté de la France, il y en a un petit peu en Corse, et il y en a aux Antilles, en Guadeloupe, par exemple. Alors, pour produire des quantités astronomiques d'avocats, il faut d'abord une pépinière. Alors, il faut mettre les plants dans le noir. Donc, ça, évidemment, il faut stocker tout ça. Alors, après, on les met dans une pièce avec une lumière un peu spéciale. Après, on les installe dans une serre. Tout ça a évidemment un coût écologique. Et puis après on les plante, et puis après on les badigeonne avec un produit spécial, et puis après c'est là que ça se corse, parce que donc il y a des avocatiers de partout du côté donc de Johannesburg. Il faut de l'eau, et il faut énormément d'eau, 130 kilos d'eau pour une salade, mais par contre si vous êtes 180 litres d'eau pour faire pousser un kilo de tomates, 130 kilos pour un kilo de salade, mais pour un kilo d'avocat, il faut 1000 litres d'eau. Donc il faut 1000 litres d'eau pour faire pousser deux avocats et demi. Et il se trouve que dans cette région de Johannesburg, il n'y a pas. Donc c'est un peu équivalent à ce qu'il faut, quand vous vous rappelez quand même qu'il faut, pour faire pousser une vache, c'est pareil, hein, pour la vache à viande, il faut, je crois que c'est 10 000 litres d'eau par bout de viande, je ne sais plus par kilo de viande. Donc toujours est-il que cet article met en lumière non seulement le fait que c'est n'importe quoi cette surexploitation, mais qu'après eh bien les avocats ils sont pendant 26 jours dans un mignon petit bateau climatisé, qu'ensuite, alors tout est contrôlé, un taux d'humidité, concentration de CO2, etc. Donc c'est un transport qui coûte une blinde, donc c'est énormément énergivore. Et puis ils arrivent à Rotterdam, et là ils sont amenés en mûrisserie, on diffuse de l'éthylène en gaz, c'est un truc qui en fait les fait mûrir tranquille. Puis après ils sont triés par des employés qui font un boulot formidable, qui bossent les 3-8, ils sont en général polonais, ils doivent être payés à coup de lance-pierre, et ils trient les avocats pour qu'ils aient tous la même tête et qu'ils soient rangés souvent le même angle. En fait, dans une caisse d'avocats, il faut qu'ils soient rangés légèrement penchés, quoi, voilà. Donc, on comprend bien que sur cet aspect donc plutôt sud-africain, mais aussi sur le Mexique, cette monoculture et cette extase généralisée pour ce produit de l'avocat, eh bien, entraîne des désastres écologiques. Et puis on peut rappeler que chaque lopin de terre utilisé pour faire de la monoculture intensive, qui en général conduit à des bénéfices assez réduits pour une population assez réduite, eh bien chacun de ces lopins de terre aurait pu servir pour une multiculture opérée par des paysans locaux.
Eh bien, on revient.
On repasse l'Atlantique.
Et ça s'est passé le 20 novembre à la capitale, où se tenait un rassemblement pro-Erdogan.
La capitale française.
Oui, capitale française. D'accord. Paris.
Paris.
Rassemblement de militants de l'AKP, le parti d'Erdogan au pouvoir, et du MHP, un tout petit peu moins connu, parti lié au loup gris, Les Loups Gris, pour les gens qui ne situent pas, c'est un groupe, un bon groupe quand même de fachos turcs, voilà, qui ont, enfin que ce soit du côté de l'AKP ou du MHP, hein, ces deux groupes par exemple haïssent viscéralement les Kurdes. Hein.
Ils sont en France donc aussi là.
Oui bah oui, ça, ils ont des gens qui,
d'accord,
des militants, hein, qui sont, okay, en France. Eh bien, fort heureusement, hein, pour je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce rassemblement ne s'est pas déroulé tranquillement, si, parce que sinon, ça nous aurait fait un peu chier quand même. Une contre-manifestation s'est dirigée sur les militants, malgré la présence de nombreux flics et d'un service d'ordre musclé côté Loup Gris. Donc, les militants sont courageusement foncés vers... vers les militants de l'AKP et du MHP. Ils se sont fait repousser et sont alors partis en manie sauvage avec barricades, affrontements avec la police, gazage, etc., etc.
Ça, tu parles des militants anti-Erdogan, du coup.
C'est ça. Voilà. Plutôt de ceux qu'on aime bien.
Ceux qu'on appelle les militants, finalement.
Voilà. Pour la plupart, d'ailleurs, des militants kurdes. Ils ont ensuite tenté de revenir à République, là où se tenait le rassemblement pour Erdogan, mais se sont fait disperser par les flics. Les organisations kurdes parlent de 7 arrestations de leur côté et de 12 blessés côté pro-Erdogan. Alors, si l'action des Kurdes contre le rassemblement était plutôt classe, le journaliste du Parisien qui a écrit un article là-dessus l'est beaucoup moins, et c'est sur un article de 20 lignes, on peut lire des choses telles que des participants à un rassemblement dénonçant les terroristes kurdes de Turquie et de Syrie. Quelques 700 personnes s'étaient rassemblées place de la République pour dire, je cite, « non au terrorisme, oui à la démocratie », afin de dénoncer le soutien donné aux organisations terroristes PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, et YPG, Unité de protection du peuple kurde en Europe et en France. Le YPG est la branche armée du parti kurde syrien PYD, bon, tout ça c'est des, là c'est moi qui est moi qui parle, hein, mais c'est que des sigles de partis politiques, qui combat notamment, je recite, les djihadistes de l'État islamique en Syrie. Ankara considère le YPG comme des terroristes proches du PKK, l'organisation séparatiste kurde en guerre contre le gouvernement turc depuis 1984. Ouh. Voilà.
Le Parisien. Ça,
merci Le Parisien.
Ils ont un service, voilà, un service géopolitique au point là.
Exactement. Et donc fini sur une cinquantaine de Kurdes sont venus découdre avec les militants, bla 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 bla. Donc voilà, rien sur la présence de Loup Gris pendant le rassemblement, hein, organisation responsable de nombreuses exactions contre les Kurdes. Parce que kurde. Rien non plus sur le contexte de guerre mené par Erdogan et son gouvernement à l'encontre des Kurdes, des minorités et de toute opposition de manière générale. Rien sur aucun contextualisation de ce qui se passe en Turquie en ce moment. Rien sur ce que c'est que, enfin, qui sont les Kurdes, sur pourquoi ils luttent, pourquoi non, ils sont pas en, enfin. Non, ils sont pas en guerre contre le gouvernement turc, mais plus en résistance face aux attaques du gouvernement turc. Enfin bref, juste après le degré Z.
Mais moi, j'ai toujours pas compris pourquoi ils se sont rassemblés au départ.
Ah bah, alors ça, c'est pas très clair dans aucun endroit. J'ai l'impression que juste ils...
C'est du soutien spontané,
ouais,
à Erdogan.
Soutien, peut-être, voilà. Un peu genre post-putsch qui a eu la dernière fois là. Enfin, le putsch raté, hein. Voilà. Non, il n'y avait pas l'air d'avoir juste un espèce de truc de genre de dire. Non, si, bah, j'ai l'impression qu'en fait, pardon, mais leur revendication, c'était de dire oui à la démocratie, non aux terroristes. Et qu'à chaque fois, c'est un peu leur slogan, là. Et les terroristes sont les Kurdes qui luttent pour leurs droits, quoi.
Alors, pour eux, hein, pour les Loups Gris, qui sont donc les fachos.
Ouais, c'est ça. Et les militants de l'AKP, qui sont le parti d'Erdogan, parti au pouvoir. Donc voilà, ce n'était pas, comme le laisse penser, un rassemblement pour dire oui à la démocratie et non au terrorisme, mais un rassemblement qui soutenait donc ce régime turc, régime autoritaire, qui, depuis, du coup, cette tentative de putsch avorté ressemble de plus en plus à une dictature qui ne dit pas son nom. Alors bon, soit c'est de l'incompétence de la part du journaliste, soit c'est volontaire, mais en tout cas, laisser la parole dans les trois quarts d'un article sans jamais situer le contexte ni les personnes présentes, c'est quand même plus que limite.
Et on continue à parler d'Erdogan.
Et mais oui, puisque je pense que j'ai l'explication de ce rassemblement.
Ah.
Et oui, parce qu'en fait, il y a la majorité des députés donc européens qui a exigé mardi que l'Europe gèle temporairement les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, tout en souhaitant que le dialogue reste ouvert. Ils sont géniaux, ces députés européens. Hein. Et notamment, le rétablissement de la peine de mort en Turquie entraînerait une rupture des pourparlers. Mais là, du coup, on est face à une de ces demi-mesures dont l'Europe a le secret et qui a toutes les allures d'un coup d'épée dans l'eau ou d'autres l'appellent diplomatie précautionneuse. Mais en bref, en tout cas, l'Europe, l'Europe est bien en perdue dans cette histoire. Et même si j'ai pas envie du tout de soutenir les libéraux là qui ont proposé le fait que la Turquie ne rejoigne pas l'Europe, ce qui est vraiment important, je pense qu'ils rejoignent l'Europe, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a plein de trucs à dire sur Erdogan. Je vais en profiter d'en reparler. Puisque l'Europe a quand même confié la gestion d'un de ses problèmes centraux, c'est-à-dire le sort de réfugiés fuyant les guerres du Proche-Orient pour chercher refuge dans les pays européens, à Erdogan. Erdogan, comme on sait, là, qu'on peut appeler un dictateur maintenant, quand même. Bref, non, on ne peut pas parce qu'il a été élu démocratiquement, mais bon. Lui, du coup, comme l'Europe lui a confié cette mission, il en profite et abat l'opposition. Quand même, là, il y a une accélération brutale de répression depuis juillet contre les forces démocratiques en Turquie. Et donc, suite au putsch qu'il a fait là en juillet,
Voilà.
Ça fait que il y a eu peu de tout ce qu'il a fait là de mettre des milliers de personnes dans les prisons. Ça, on parlait quand même au début, pas trop dans les médias. Il y avait quand même un truc de.
Oui, c'était comme légitimé par cette agression qu'aurait été le putsch. Et donc, en fait, tu parles de répression, mais c'est bien pire que ces répressions.
Puis en plus, il a mis en place un état d'urgence. Alors, critiquer trop l'état d'urgence en Turquie, ça allait faire permettre de critiquer trop l'état d'urgence en France. Mmh. Bref, en fait, ça faisait que lui, il a assez. Grâce à l'enjeu des migrants, jusqu'à présent, il bénéficiait d'une sorte de gentillesse. Je trouve des médias qui parlaient peu, justement, là, comme tu as pu le décrire dans Le Parisien, etc. Mais sauf que là, ça c'est quand même un peu différent, puisque quand même, là, il y a les députés européens qui ont commencé
à se bouger.
Alors, je dis pas que c'est bien, parce que je pense qu'il faut que l'Europe rentre dans la Turquie rentre dans l'Europe, mais de dénoncer toutes les politiques d'Erdogan, c'est aussi important et pas mal, voilà.
Allez, très rapide, on va faire un petit coup de publicité qui fait plaisir. C'est quand même important de savoir se régaler des investissements bien choisis du Crédit Agricole, de Natixis, de la Société Générale et de BNP Paribas. En effet, ces institutions que nous apprécions très fort ici, pour les trois premières, elles ont accordé un prêt de 2,5 milliards à ce dont je vais vous parler après, et BNP Paribas a financé les firmes qui font ce dont je vais vous parler après. Donc ce dont je vais vous parler après, c'est ça se passe dans le Dakota du Sud, et plus exactement dans une réserve, la réserve de Standing Rock, qui est une réserve Sioux, donc des Indiens Sioux. Eh bien, il y a un superbe projet d'oléoduc qui menace des sites culturels ancestraux de ces Indiens et également les sources d'eau de ces mêmes Indiens. Alors il s'agit donc du Dakota Access Pipeline qui serait donc un oléoduc qui ferait passer du pétrole de schiste et qui permettrait d'alimenter les côtes est et sud des États-Unis. Alors cet oléoduc mécontente très très fortement les Sioux de cette cette réserve. Et donc, comme je vous l'ai dit, il est cofinancé, en particulier, pas intégralement bien sûr, mais cofinancé par le Crédit Agricole, Natixis, Société Générale et la BNP Paribas. Alors c'est Greenpeace qui nous dit ça, surtout qu'en plus c'est des banques qui avaient signé un truc qui s'appelle les principes de l'Équateur, qui vantent leur responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est pour ça que c'est quand même à hurler de rire. Pourquoi on parle également de ça? C'est que, eh bien, ce week-end, il y a eu un week-end assez agité avec eh bien, la police qui n'est pas allée de main morte sur les, eh bien, sur les manifestants, qui manifestent donc contre cet anti-oléoduc, Alors, pour vous situer un peu l'histoire, il faisait moins d'eux. Et puis les flics qui sont arrivés sur les manifestants, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a tout ce que vous voulez, et ils ont pris des canons à eau. Mais il se trouve que bah, des canons à eau, quand
ils sont gelés.
Voilà. Quand, non, malheureusement ils n'ont pas gelé, mais l'eau elle n'était pas à moins 2, mais elle était peut-être à 1. Et quand tu te fais, disons, canarder avec de l'eau qui est proche du givre, eh bien c'est assez terrible. Donc il y a eu évidemment des gens blessés. Il y a même une des activistes qui malheureusement va peut-être perdre un bras. Voilà comment donc on traite ces personnes qui manifestent contre ce projet on ne peut moins écolo. Et voilà, depuis septembre, il y a près de 400 personnes qui ont été arrêtées. Donc on peut parler d'une forme de répression de cette façon de s'agiter. Alors juste pour préciser, et vous pourrez retrouver les infos sur internet, c'est qu'il y a eu quand même des élans de solidarité avec ces Sioux, donc de cette réserve de Standing Rock. Il y a eu des financements collaboratifs, aussi tout un tas de moyens mise à disposition pour les soutenir, etc. Ça bouge un petit peu, mais toujours est-il que là, on en est quand même à la case un petit peu répressive qui fait du mal à être entendue. Et puis en plus, c'est soutenu par les petites banques françaises.
Et avant de finir par un conseil de lecture, je vais faire un petit agenda. Je vais vous annoncer deux événements. Donc le premier, c'est un rassemblement qui aura lieu mardi 29 novembre à Saint-Julien-Molin-Molette. Et justement, tu parlais de construction d'oléoduc. Et donc, c'est un collectif là dont on a déjà parlé qui s'oppose à l'agrandissement d'une carrière dans leur village. Donc c'est ce mardi 29 novembre à 10h à la mairie de Saint-Julien, il y a un rassemblement silencieux lors de la CSS. La CSS, c'est la commission de suivi de site, qui est une commission envoyée assez sérieuse, regroupement plein de pontes. Et donc le but est de soutenir les représentants du collectif contre la carrière, donc le but de ce rassemblement, et le but est de marquer l'opposition face à la procédure de projet d'intérêt général de la carrière. Donc elle s'appelle Desmalicots-Dorel, la carrière, que le préfet de la Loire veut imposer à cette commune. Rappelons que la commune majoritairement a voté contre l'agrandissement de la carrière et que le département de la Loire veut la faire passer en force. Donc c'est toujours intéressant de rappeler ça. Donc cette commission apparaît donc aux personnes là du voilà, je suis désolée, j'y arrive pas, du collectif qui s'y oppose, comme du simulacre de discussion, ce CSS là, où les bémols et remarques sont oubliés dans le compte-rendu par exemple, où les questions qu'ils posent ne sont ni posées ni répondues dans les comptes-rendus. Bref, voilà, c'est pour ça qu'ils font ce rassemblement silencieux. Ils disent de prendre des gilets jaunes pour ce rassemblement. Et suite au rassemblement, il y aura de quoi boire, vous voyez, de quoi manger au marché, du thé, des gâteaux et tout ça.
Tu rappelles le lieu, la date, l'heure et
donc c'est ça. À Saint-Julien-Molin-Molette, c'est dans le Pilar, c'est pas trop loin, c'est à 1h30 de Lyon. Et c'est le mardi 29 novembre à 10h.
Et pour rappel, là, les conséquences de l'expansion de cette carrière là, c'est avoir une carrière de pierre vers chez soi, ça veut dire entendre des déflagrations de dynamite à intervalles réguliers très souvent.
Et des camions.
Et des camions qui passent, du coup des camions qui font énormément de bruit. Et là, en l'occurrence, je crois que ça risque de doubler la fréquence des camions sur la route.
C'est ça. Et sinon, ce jeudi, demain, 24 novembre, à 19h, à l'association Cabiria, donc une asso qui est pour et par des travailleuses du sexe, la projection du film Travel de Nicolas Hamay, en présence donc du réalisateur. Donc, c'est originaire du Nigeria. Joy vient vivre en France pour aider sa famille. Elle savait avant d'arriver qu'elle devrait se prostituer, mais n'imaginait pas le degré d'exploitation auquel elle serait confrontée. Donc, travel, le mot utilisé par les femmes nigérianes pour désigner la migration, montre les étapes de ce parcours semé de difficultés, mais aussi de solidarité. Donc, il a l'air un peu complexe, le film. Il n'est pas juste... Voilà. Ce film est issu du projet Unborders, qui vise à analyser les dispositifs humanitaires ciblant les demandeurs d'asile exerçant le travail sexuel ou appartenant à des minorités sexuelles. Et il a été donc réalisé par ce sociologue, là, Nicolas Hamay, mais il a été surtout coécrit avec 8 femmes nigérianes ayant des expériences de migration, de prostitution et d'exploitation, et interprété par des comédiennes non professionnelles, dont certaines des co-autrices. Donc c'est ça qui est intéressant, surtout dans ce film, c'est que c'est aussi de la parole pour deux personnes concernées et pas juste... projeter et imaginer.
C'est ça, parce que peut-être ce que j'allais préciser là, c'est pour les gens qui ne situent pas forcément Cabiria, c'est une asso assez classe autour de la prostitution ou quoi. Et du coup, c'est pas un film genre à la M6 ou tout ça, là, où ça va être hyper racoleur et hyper sensationnaliste sur ces parcours de migration. Du coup, effectivement, comme tu disais, ça va être, je pense, un espèce de truc pris dans sa complexité. Quoi.
Et donc le 25 novembre, c'est la journée des violences faites aux femmes, et donc cette soirée s'inscrit aussi dans la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, même si c'est le 24. Et voilà, parce que les violences s'exercent de différentes manières et tout au long du parcours menant les travailleuses du sexe migrantes jusqu'en France. Violence des conditions de déracinement, du voyage, de l'accueil, de l'exercice du travail du sexe, de la réalité opposée à leur attente, du processus d'obtention des papiers, de leur double stigmatisation sociale et de la négation de leur parole pour celles et ceux qui disent pourtant les protéger, voilà. Et peut-être que vous verrez dans les rues du 25 des rassemblements spontanés de femmes, qui sait. Ça serait bien en tout cas.
On ouvre la page, c'est le cas de le dire, conseil de lecture. Un conseil de lecture précédé d'un autre qui évoque ce que tu viens de dire. Il y a un hors-série du monde diplomatique qui s'appelle Manière de voir. Il y a des thèmes chaque très réguliers, et évidemment celui-ci, c'est un Manière de voir spécial qui s'appelle Femmes, tout simplement, qui parle du droit et des difficultés des femmes un petit peu autour du monde. Donc probablement un conseil de lecture qui peut évoquer ce dont tu parlais juste avant, Manière de voir.
Et donc là, tout de suite, ça va être un conseil de lecture plus spécifié sur les lectures pour les enfants.
Voilà, il s'agit d'un livre qui s'appelle plus exactement un livre de dessin, un livre BD, qui s'appelle Le loup en slip. Et vous allez voir que sa lecture peut être très métaphorique et aller dans un sens qui pourrait bien plaire aux auditeurs, auditrices de Radio Canu. Alors, Le loup en slip, ça commence par cette forêt où, en fait, il nous est précisé qu'il ne faut pas traîner. Alors, ne laisse pas traîner tes fesses quand le loup descend pour manger. Donc, dans cette forêt, il faut faire très attention au loup. Alors, par exemple, on découvre que la forêt est en fait encombrée de plein de choses anti-loup. Il y a un vendeur de clôture anti-loup, il y a du karaté anti-loup, il y a quelqu'un qui fait du business de piège à loup, il y a des alarmes anti-loup, il y a un éditeur spécial sur les crimes du loup, il y a quelqu'un qui fait aussi, qui donne des remèdes contre la peur du loup. Et bien, bien sûr aussi, le journal avec Demandez la Gazette de la forêt, encore deux victimes du loup, avec de l'affichage reportage également sur des alertes anti-loup. Puis la page d'après, on a des savants qui nous expliquent que la peur, et bien sûr il y a des crocs, il y a un regard fou, il y a la peur qu'il faut propager dans cette forêt. La peur du loup qui est donc commune et donc propagée de partout. Et heureusement, il y a une brigade anti-loup. Alors, il y a une brigade anti-loup bien équipée, avec des flingues, avec aussi une espèce de je sais pas comment on appelle ça, une espèce de batte de baseball.
Ton
Donc,
frère.
Il y a, voilà. Ouais. Il y a une brigade anti-loup. Et puis, au fur et à mesure du livre, figurez-vous qu'on va le rencontrer, le loup. Et le loup, il a un slip. Alors, on lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas toi, le loup, parce que déjà, t'as l'air cool, et en plus, t'as un slip. Le loup dit, ben voilà, en fait, j'hurlais, parce qu'en fait, à chaque fois que je m'asseyais, ben, j'avais froid aux fesses, quoi. Donc j'hurlais, je faisais, j'avais froid aux fesses, quoi. Et puis, j'attrapais un rhume, et du coup, ça me donnait les yeux rouges, infernal. Et puis, du coup, depuis que j'ai mis un slip, ben moi, tout va bien, quoi. J'ai plus les yeux rouges, j'ai plus un air tout bizarre, et puis je crie plus comme ça en hurlant. Et là, patatras, le loup étant désormais quelqu'un de très fréquentable, en fait, le vrai loup, on comprend qui c'est, eh bien, ça met du monde, ça désorganise complètement la forêt, à savoir la brigade anti-loup n'a plus lieu d'exercer, toute la raison de vivre, tout ce petit monde qui était de se baser sur la peur du loup, voilà, moi, ma conférence sur le loup qui fait peur, qu'est-ce que je vais en faire, et qui va acheter mes pièges à loup, et que faire de cette brigade anti-loup, bref, vous sentez la métaphore, hein, c'est-à-dire de l'altérité, on connaît mal l'autre, et puis on se barricade contre l'autre, et puis quand on s'aperçoit que l'autre n'est pas aussi affreux que ce qu'il en a l'air, eh bien, patatras, tous celles et ceux qui, par exemple, comme ce monsieur, le sanglier, là, qui vendait des clôtures anti-loup, eh bien, tous ces gens-là se retrouvent sans boulot. Alors, je vous laisse découvrir la fin. En fait, il se trouve qu'il y a quand même quelqu'un qui avait un petit peu... Bon, il y a l'écureuil dans l'histoire qui avait un petit peu manigancé pour que cette peur du loup soit propagée. En l'occurrence, c'est lui, cet écureuil, qui avait fait disparaître un certain nombre de personnages et en mettant ça sur le dos du loup. Voilà, le loup en slip, il me semble que c'est un petit bouquin assez métaphorique sur l'altérité, le fait de ne pas de se méfier de l'autre et puis de faire du business autour de cette méfiance. Et puis patatras, quand on s'aperçoit que finalement le loup, dès qu'il a un slip, finalement il est plutôt tout à fait fréquentable.
Alors est-ce que tu peux nous redonner le titre, la maison d'édition, et est-ce que tu arriveras à situer un peu l'âge de lecture pour les enfants? Parce que c'est pas pour tout jeune.
Alors,
tout jeune non plus.
C'est pas hyper méga underground, c'est chez Dargaud. Les auteurs, c'est Lupano, Itoiz, KUE. Le loup en slip, pour une lecture. Le problème des loups, c'est que ça peut faire peur, parce qu'il y a une grande tradition qui est d'ailleurs défoncée dans plein de bouquins actuels, ouais. Hein, sur le loup. Hein, y a beaucoup de loups qui sont ou sympas ou rigolos. Il y a même un bouquin où, en fait, c'est un bouquin de cuisine sur le loup. Comment cuisiner un loup? Donc tu mets plein de choses. Voilà, donc ce bouquin, il est plutôt pour les plus de 4 ans, 5 ans, pour une lecture, on va dire... rigolote sur le côté slip, et puis il est aussi à destination de grands enfants qui pourraient avoir bien plus que 4-5 ans, qui pourraient trouver un peu de réconfort dans cette par exemple dans la mise au chômage de la brigade anti-loup.
C'est ça, parce qu'on n'est pas loin de la BD, parce que d'ailleurs c'est des auteurs de BD.
Ouais, tout à fait.
Et voilà, c'est fini ce Canu Info.
Oh là là, 19h58, ben t'as 59 dans
voilà,
quelques secondes.
C'est la fin de ce Canu Info en slip.
Juste le temps de laisser aller des noirs, le temps de s'installer dans les studios. On vous balance quelques secondes de bande continue.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Et courage, tenez bon.
Merci de nous avoir écoutés.